Goût du Monde, Clémence Denavy.
Bonjour, bienvenue dans le Goût du Monde, l'émission qui se fait l'écho des marmites et des palabres qui se tiennent autour des fourneaux. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un ingrédient tellement évident que l'on oublie d'y faire attention. Pourtant, c'est l'un des tout premiers ingrédients, l'une des toutes premières nourritures même. La céréale découverte, écrasée, ajoutée à l'eau pour en faire une bouillie. Nous sommes évidemment à la préhistoire. Et oui, aujourd'hui nous allons rouler dans la farine, mais alors farine au pluriel, bien sûr, farine du monde entier, parce que le blé, autant s'il est omniprésent de ce côté-ci de l'hémisphère, ne fait quand même pas toutes les farines du monde, on est d'accord. Avec nous pour parler de ces farines, une passionnée de levain, de farine, de tout ce qui se fait avec la farine, une pâtissière et naturopathe. Bonjour Jennifer Hart-Smith.
Bonjour Clémence.
J'espère que vous allez bien.
Mais je vais très bien, merci.
Très bien. Nous rejoindra au fil de cette émission la cuisinière auteure camerounaise Nathalie Brigon-Goum pour parler des farines africaines et des céréales et racines transformées en galettes, pâtisseries, petits pains et autres délices surprenants. Jennifer, pour commencer, vous qui êtes pâtissière et naturopathe, quelle place ont les farines dans votre cuisine ?
Un peu centrale, j'ai envie de dire. En fait, je fais partie des gens qui ont un cursus classique à la base, donc CAP pâtisserie, et c'est vrai que c'est l'ingrédient de base, la farine. Sauf que on a un type de farine, elle est souvent très blanche, et c'est la farine de blé. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est de se rendre compte qu'il y a une vraie diversité, et justement, l'intérêt, c'est de réintégrer toute cette diversité dans notre travail de pâtisserie, je pense.
Justement, tout de suite, vous vous êtes intéressée à cette diversité des farines, ou au début de votre exercice, où vous vous êtes dit, bon, ma farine, je vais faire mes pâtisseries avec cette farine blanche.
Non, au début, j'étais très bonne élève, c'est-à-dire que c'était bien aussi, d'ailleurs, de travailler avec une farine, de comprendre qu'il y avait donc un système de force dans les farines, c'est-à-dire une élasticité selon le taux de force et tout ça. Mais très rapidement, j'ai compris qu'il y avait une volonté de standardisation et que finalement, elle manquait un petit peu de richesse, de différence. Et assez rapidement, après mon CAP, j'ai été en contact avec Moulin des Moines qui m'a proposé le projet d'écriture de livres sur les différentes farines et je me suis plongée effectivement dans leur gamme et j'ai vu qu'il y avait une diversité assez incroyable et effectivement j'en avais pas du tout entendu parler pendant mon CAP de pâtissière donc j'étais surprise et curieuse. Et quand j'ai ouvert les différents paquets, il y avait des couleurs différentes, il y avait des arômes, des odeurs. Elles avaient toutes des spécificités techniques différentes. Ce qui était génial, c'était d'expérimenter, de les apprivoiser, de comprendre comment elles fonctionnaient. Et ça a amené une telle joie, une telle richesse que après, je suis plus jamais revenue à la farine T45 blanche, quoi.
Pourquoi se fermer les yeux quand on peut les ouvrir grand en même temps ?
Exactement.
On est d'accord. Et votre corde naturopathe également a dû aussi complètement souligner le fait de vos découvertes en termes de farine plurielle.
Tout à fait. En fait, la naturopathie, on essaye d'être donc au plus proche des ingrédients les moins transformés possibles, donc le moins de raffinage possible. On essaye d'avoir les ingrédients les plus bruts. Pourquoi ? Parce qu'ils sont... la nature fait tellement bien les choses qu'en fait, plus ils sont bruts, plus ils sont complets et plus ils sont gorgés de nutriments, de fibres, d'enzymes, d'oligo-éléments. Et donc, c'est vrai que la naturopathie m'a confortée avec le fait que les farines complètes et des différentes variétés avaient à chaque fois des nutriments différents à apporter. La farine d'amarante va être très riche en zinc, certaines vont avoir un taux de protéines plus intéressant. Et il y a tout ce qui nous intéresse en naturopathie, c'est la part du vivant, le micronutriment entre guillemets. Donc voilà.
Qu'on peut entretenir d'ailleurs en usant et en utilisant ces farines et en les découvrant. Parce
oui.
Parce que cette part du vivant, elle est totalement prise en compte.
Bien sûr, notamment la fermentation nous amène à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, plus on les travaille en complet et plus on prend connaissance de la diversité et plus en mélangeant de simples farines complètes comme, je sais pas, la farine d'amarante, la farine d'orge ou la farine d'avoine avec de l'eau, on les mélange avec de l'eau, on se retrouve à pouvoir lancer des levains, des espèces de blobs complètement vivants qu'on va utiliser pour panifier, pour fermenter. Et on a un champ des possibles extraordinaire.
Donc, alors, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, et bien sûr que champ des possibles, alors ça, on va en parler tout au long de cette émission, je crois, du champ des possibles. On va déconstruire, c'est un peu comme des pupéries.
Oui,
ah tiens,
tout
on a découvert
fait.
Ça, mais il y a ça aussi à l'intérieur, et donc bien c'est sûr. Formidable. Quand vous disiez les céréales complètes, justement, ça, c'est pas du tout une évidence. Vous tendez à conseiller d'aller vers une céréale plus complète
En fait, il y a deux lectures en naturopathie. La première lecture qu'on fait pour la santé vis-à-vis des céréales, forcément, c'est celle qu'on connaît tous beaucoup et de plus en plus, c'est la lecture du sans gluten. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas trop le gluten en naturopathie pour des raisons de santé. On se rend compte que le gluten, c'est une colle et qu'elle est tellement omniprésente aujourd'hui. Et on a des techniques de panification dans l'industriel qui ont fait que ça a eu des effets très délétères sur la santé. Et effectivement, moi, c'était le premier axe que j'ai pu voir. Mais il y avait vraiment l'autre axe de réintroduire aussi toutes ces autres variétés de farine qu'on a moins sur le marché en tant que professionnel et en tant que particulier. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie richesse, en fait. Et même en naturopathie, par exemple, quand bien même l'orge, il y aurait du gluten, c'est dommage de s'en passer parce que c'est, par exemple, une céréale ou une farine qui va être très revitalisante, qu'on va même donner aux chevaux et qui va être parfaite pour des gens qui vont être un peu sous-vitalisés ou qui vont avoir un manque d'énergie. Donc, en fait, il ne faut pas non plus se couper de certaines farines sous prétexte qu'il y a du gluten, en fait. La richesse complète fait que même un grain de blé, en fait, si on prend un grain de blé de variété ancienne, il est tellement parfait. C'est-à-dire qu'il y a aussi le germe de blé, qui est d'ailleurs un super aliment qu'on conseille en première intention en naturopathie. Quand on a des gens qui sont, par exemple, sous-nutris et qui ont besoin de compléments et qui n'ont pas forcément un gros budget, le premier complément qu'on va leur proposer, c'est le germe de blé, qu'on trouve en magasin bio, qui est pas cher du tout, qui est gorgé de vitamines du groupe B, et qui a toute la partie un peu lipidique grasse et qui va avoir tendance à rancir aussi. Bon. Donc on l'enlève dans l'industrialisation, on se pose même pas la question. Sauf que c'est presque le trésor nutritionnel qu'on enlève quand on fait ça.
Le germe de blé, c'est quoi ?
Le germe de blé, c'est quand un grain de blé va être au contact de l'eau, c'est vraiment c'est une espèce de petit point blanc sur le grain de blé, et c'est ce qui va donner la vie, en fait. Donc on enlève la vie déjà en première intention du grain de blé. Donc déjà quand on fait ça, on a tout faux. Voilà, gluten ou pas gluten, on se trompe quoi.
En tout cas, l'idée c'est de découvrir, de s'ouvrir et voir éventuellement aussi avec certaines céréales comment est-ce qu'on peut baisser la teneur en gluten ou comment s'arranger autrement. Dans le sud de la France, à l'ouest d'Avignon, il y a l'auberge de la Fenière, tenue par la chef étoilée Nadia Samut, qui a réinventé complètement sa cuisine pour travailler avec des farines nouvelles qu'elle produit elle-même. Je vous propose de l'écouter.
J'ai décidé effectivement d'acheter un moulin, un vrai moulin en pierre et en bois, et j'ai décidé d'écraser effectivement des céréales et des légumineuses issues de mon territoire ou de France pour le sarrasin. Et j'utilise du pois chiche, de la châtaigne de colobrière et du riz de Camargue. Et grâce à ces quatre éléments que j'écrase dans mon moulin avec un certain degré d'écrasement, un certain tamis pour avoir une granulométrie, etc., j'ai vraiment travaillé intensément là-dessus pour créer les bases de la construction de mes projets culinaires, de mes produits, de mes pains, de mon levain, bien sûr, et de beaucoup, beaucoup de choses parce que ça a ouvert le champ des possibles. Et aujourd'hui, ce qui était important pour moi, c'était de dire qu'est-ce que j'ai autour de moi et qu'est-ce que je peux écraser pour en faire de la farine et derrière pour aller chercher des univers.
La chef étoilée rouge et verte, parce que c'est une chef très attentive à son territoire et donc il y a une étoile Michelin verte qui signifie la durabilité de sa cuisine, très implantée sur son territoire. Elle parlait bien sûr de tout ce qu'elle a autour de chez elle. En termes de farine, qu'est-ce qui est à l'origine de la farine ? Parce que là, on a parlé du blé, on a parlé des céréales, mais bon, la farine, c'est pas seulement des céréales.
On peut faire, et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que dans mon cursus aussi, il y a aussi toute la partie phytologie. Et c'est vrai que quand on commence à s'intéresser aussi aux plantes sauvages, par exemple, on se rend compte que dans notre civilisation, il y a une vraie histoire de farine à base de bois, parfois, de plantes aussi.
De bois ?
Oui, tout à fait. Des farines, par exemple, de bouleaux, d'écorce de certains arbres, et aussi de feuilles, et aussi de plantes sauvages. Donc, effectivement, il y avait un peu cet apport de certaines farines pour amener justement des protéines, entre guillemets. On peut faire de la farine de gland aussi, de chêne.
Oui.
Donc, bien sûr, c'est des processus qui sont tellement longs pour certains que on n'a pas cette diversité aujourd'hui sur le marché. Mais en fait, tout peut être farine. Et ce qui est vraiment super, c'est le fait d'avoir un petit peu une démarche de se composer, une sorte de farinothèque chez soi. Ouais, c'est ça qui est génial. Ouais.
Tout peut être farine.
Alors, je dirais pas que tout peut être farine. Je pars du principe que quelque chose qui peut être déshydraté et moulu, on peut en faire une farine. Après, est-ce que le processus est laborieux ou pas, et comment on l'intègre aussi? Il y a certaines farines qu'on va intégrer pour des questions techniques et d'autres où on va vraiment se servir du goût. Donc c'est aussi chaque céréale, tout ce qu'on va transformer va avoir une propriété technique. Voilà, certaines vont amener du gras, d'autres vont amener vraiment de l'aromatique, d'autres vont amener justement la partie un petit peu, ce qui peut être le cas pour le blé, voilà, la partie panifiable. Certaines farines sont panifiables, elles ont une élasticité et d'autres n'en ont pas. La farine de riz, par exemple, va amener beaucoup de croquant, elle va être très absorbante. Donc, on va souvent avoir besoin de la lier avec une autre farine. Et on trouve souvent, justement, dans les mélanges sans gluten, le mélange sarrasin-farine de riz, parce que c'est très complémentaire. Et c'est vrai que, par exemple, dans l'approche des farines sans gluten, plus on mélange les farines sans gluten et plus elles se potentialisent, justement. Plus ça devient facile de les utiliser.
D'accord, oui, c'est ça, ça se compense en fait.
Ça se complète, tout à fait.
Le non panifiable de certaines farines, du coup, se compense et on peut ajouter des choses qui font. D'ailleurs, Nadia Samut, qu'on a entendu à l'instant, est très adepte de ce mélange riz sarrasin.
Et certaines fécules parfois aussi vont
tout
à amener.
Mais il y a tout le temps en fait. C'est une chimiste de formation. Et on comprend pourquoi vous, une naturopathe, on est curieux, on mélange, on découvre. Et il y a des choses auxquelles on pense pas.
Il y a la farine aussi des oléagineux. Enfin, par exemple, quand on parle de la poudre d'amande, moi j'ai trouvé dans le souchet des propriétés très proches aussi. Récemment, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les graines de chanvre décortiquées. Il y a un producteur dans les Landes qui font de la graine de chanvre française. Et quand on prend les graines de chanvre décortiquées et qu'on les moue, on se retrouve aussi avec une espèce de texture presque proche de la poudre d'amande.
Ce côté un peu gras, alors, du coup.
Oui. Après, il faut faire la distinction entre poudre d'amande et farine d'amande, hein, par exemple. On n'a pas le même taux lipidique, on n'a pas le même, justement, la même texture. Donc c'est important aussi, effectivement. C'est pas parce qu'on moue et qu'on réduit en poudre qu'on est sur de la farine, mais... dans la farine, il y a quand même une notion de... C'est quelque chose qui se réhydrate aussi assez facilement. Il y a une dérive de conservation, on n'a pas cette partie aussi grasse qu'on a dans la poudre d'amande. Ouais.
D'accord. Il y a également les lentilles.
Oui, tout à fait, que je travaille très peu pour le coup.
Ah. Et pourquoi ça?
Parce que j'ai l'impression que c'est très proche de la cuisine. Mais je pense que c'est un manque de curiosité de ma part pour l'instant. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est la farine de pois chiche, qui a un taux de protéines tellement riche que ça vient remplacer les œufs dans les préparations. Notamment certaines préparations vraiment où on va trouver des œufs, comme la frittata par exemple, toute simple. Si on fait un mélange de pois chiche et d'eau, on peut se retrouver avec une pâte un peu qui peut avoir la texture d'une crêpe, pancake, et on peut faire des super pancakes, des super crêpes comme ça.
Mais juste avec la farine de pois chiche.
Ouais, juste avec la farine de pois chiche. Dès qu'on la mélange avec l'eau, on a vraiment la texture œuf et les spécificités techniques de l'œuf dans les préparations. C'est chouette.
Magnifique. Moi, je vous propose aussi, parce que quand même, enfin, en France et un peu partout dans le monde, on peut dire que chaque territoire a un peu sa céréale. Ou sa légumineuse, en tout cas l'outil avec lequel il va panifier, avec lequel il va faire des galettes, avec lequel il va faire des pains. Moi, je vous propose d'aller dans les volcans du Puy-de-Dôme, dans le centre de la France, à côté de la Haute-Loire, où Jean-François Beraud produit des lentilles vertes du Puy, bien sûr. Nous sommes à Saint-Jean-Lachan.
Certains pains gourmets leur trouvent un goût de noisette, d'autres un goût de châtaigne. On n'en mange pas au petit déjeuner, mais... ceux qui aiment les gâteaux pourraient en manger sous forme de tuiles. Ce sont des gâteaux, des tablés à la lentille verte du Puy. On fait de la farine avec la lentille verte du Puy et donc on peut l'accompagner après dans des gâteaux. On peut faire des entremets à la lentille verte du Puy, de la glace à la farine de lentille verte du Puy. On peut l'accompagner sous toutes ses formes. De l'entrée au dessert, on peut mettre de la lentille à tous les plats.
Et puis c'est très bon pour la santé, la lentille verte du Puy.
Plein de fer.
Voilà, Jean-François Beraud, donc, qui est producteur à Saint-Jean-Lachan. On a aussi envie de les torréfier, peut-être un peu ces farines, non?
Oui,
ça peut apporter en termes gustatifs quelque chose.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est pareil. Je pense que c'est des pratiques qui, ou qu'on a perdu, ou que certains moulins pratiquent. Moi, j'en ai pas mal. J'en ai discuté avec Philippe Guichard, qui est un paysan boulanger et qui torréfie lui-même.
Dans le centre de la Nièvre, je crois.
Lui, il est jurassien d'origine. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il a une pratique de torréfaction. Il travaille avec un outil où il peut régler vraiment au degré près son travail de torréfaction. Il brûle pas ses céréales. Et ça, c'est très intéressant, justement, d'un point de vue naturopathique. Parce qu'il n'a pas une réaction de Maillard démesurée qui fait que ça devient délétère
en fait
pour la santé. Il les toaste, mais en contrôlant le degré de torréfaction. Du coup, on a tout le côté exhausté des arômes et du goût, mais il garde un degré de torréfaction tel que on n'est pas dans du cramé. Et c'est vrai qu'il a cette justesse dans le travail qui est hyper importante parce que ça reste bon à la santé et en même temps, on a les arômes torréfiés. C'est chouette.
Ouais, caramel, un petit peu. J'ai goûté son sarrasin une fois.
Voilà,
et c'est vrai qu'il y a vraiment un goût caramel. Et ce qui est super aussi, c'est que, et là, on est encore dans une poupée russe, parce que cette farine torréfiée, alors il y en a une qu'on redécouvre, c'est la farine de Gaud.
La farine de Gaud, donc c'est la farine de maïs, donc grillée. Et c'est vrai que, il y a le moulin Taron, par exemple, Jura, qui a une pratique de torréfaction au feu de bois. Et c'est vrai que ce que m'expliquait Philippe Guichard, c'est que c'est super comme démarche, mais c'est vrai qu'on a moins de contrôle sur le degré de torréfaction. Et en fonction du sens du vent, on peut avoir une farine plus ou moins grillée, plus ou moins aromatique, plus ou moins caramélisée. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir justement un côté un petit peu régulier aussi dans ce côté-là.
J'avais découvert Jennifer Hart Smith dans un restaurant thaïlandais une fois, une petite farine comme ça, des petits qui recouvraient ma petite salade. Peut-être est-ce kinako. Et en fait, on m'avait expliqué que c'était du riz gluant. Torréfié.
D'accord.
Séché et torréfié.
Alors ça, je connais pas, mais par contre, j'ai découvert vraiment dans la gastronomie japonaise le soja grillé qui amène ces notes vraiment intéressantes qu'on peut utiliser, très poudre presque proche de la fécule, et dans lesquelles on va tremper par exemple des mochi, et ça va amener ce côté un peu torréfaction hyper agréable au goût aussi, et c'est chouette. Ouais. Le grillé est vraiment réconfortant.
Oui, totalement réconfortant, ouais. Cocoonesque.
Le goût du monde, Clémence de Navi. As I stand before you, I want you to listen to me well. As I stand before you, I want you to hear me well. You see, this our life. Our lives move very fast. Our lives in this life. Our lives move very fast. It's why we must face the government. Government must not waste our time. It's why we must face the government. Government must not waste our time. When government wastes our time, government wastes our life, brothers and sisters. When government wastes our time, government wastes our life. If government knows to do their job, make them come out for their. Electricity, make them repair all the roads, yo. Make them give us good health care. Make them give us clean water to drink, to name a few.
Papa de Femi Koti sur RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous parlons cette semaine d'un ingrédient incontournable des cuisines du monde, l'un des plus universels, je pense, avec la pâtissière naturopathe Jennifer Hart Smith, auteure bien sûr de pâtisserie naturelle et de farine, ça c'était en 2017, et surtout curieuse de ces farines et de levains, de méthodes à partager. Nous rejoint Nathalie Brigongoum. Bonjour Nathalie.
Bonjour Clémence, bonjour Jennifer.
Salut Nathalie.
Salut.
Vous êtes passionnée de cuisine, auteure du blog Envolée Gourmande et d'un livre, prix de l'innovation au Gourmand Awards, primé à plusieurs reprises à la Foire de Paris également. Mon apprécié de cuisine, c'est son titre. Vous êtes camerounaise et vous vivez en France, mais alors ce qui est intéressant dans ce titre, un apprécié de cuisine, est-ce que vous pourriez nous donner son sous-titre, s'il vous plaît?
Alors le sous-titre de l'apprécié de cuisine, c'est « Et si la boulangerie ?» La pâtisserie et d'autres savoureuses déclinaisons avaient un goût d'Afrique.
Eh oui, ça c'est une bonne question. Est-ce que vous pourriez nous confier d'où vous vient votre goût justement pour la boulangerie?
Disons que j'ai déjà le goût de la cuisine, hein. J'aime la cuisine avec un grand C. J'ai dit souvent ça, pâtisserie, boulangerie et puis la cuisine plus classique. Et le goût pour la boulangerie vient d'abord de la proximité avec une boulangerie chez nous à Bonaguerri au Cameroun, dans une banlieue de Douala. Donc j'avais des odeurs de pain tous les matins dans mes narines et je pense que je n'ai jamais oublié ces odeurs-là. Ensuite, on achetait du pain chaud de temps en temps en alternance un peu avec les beignets qu'on mangeait le matin. On consommait donc ce pain avec du haricot rouge, des omelettes, de la sardine ou de l'avocat. Et j'ai continué à faire plus tard des expérimentations, toujours au Cameroun, avec et la farine de blé et d'autres farines. J'aime plonger mes mains dans la farine. J'aime les pâtes levées, j'ai l'impression qu'elles sont vivantes. Je pense que quand on plonge les mains dans la farine, c'est comme quand on joue au bord de l'eau sur la plage. La différence, c'est que c'est un peu plus gourmand, quoi.
On est d'accord. Quand vous dites que c'était du pain blanc que vous mangiez quand vous étiez petite, qu'est-ce que c'était comme type de pain ?
Ben, c'est du pain avec de la farine de blé classique. Ça devait être soit T45, soit T55, que du pain blanc.
D'accord, que du pain blanc alors ?
Pas que du pain blanc, il y avait beaucoup de pain blanc. Il y avait aussi des pains peut-être de farine un peu plus complète. Mais c'était vraiment une boulangerie classique, une boulangerie française classique.
D'accord, les petits beignets là dont vous nous avez parlé, racontez-nous un petit peu.
Alors, de petits beignets, soit de farine de blé, parce qu'on mange la farine de blé avec du haricot rouge, soit de la farine de maïs et de temps en temps de la farine de c'est même pas de la farine, c'est du manioc râpé aussi pour faire des beignets. On le faisait quand j'étais toute petite. On faisait des galettes aussi de manioc râpé pour voilà, galettes, beignets, manioc, maïs ou blé.
D'accord. Racines, tubercules, n'est-ce pas ? Et légumineuses, on a les haricots, la racine de manioc. Est-ce que ce sont des farines justement que vous utilisez aujourd'hui et comment est-ce que vous les utilisez, Nathalie ?
Je les utilise pratiquement toutes aujourd'hui, du moins celles que je peux avoir. Hein. J'utilise aussi les céréales parce que j'en ai pas parlé. Il y a toute une partie, par exemple, du Cameroun qui mange beaucoup de mille. Donc, il y a beaucoup de bouillie là-bas. Donc, on fait des farines au Cameroun et dans d'autres pays à partir de céréales, donc de féculents, de racines, de légumineuses et même de feuilles.
Et même de feuilles, d'ailleurs, dont parlait Jennifer tout à l'heure. Quel type de feuilles ? Est-ce que vous allez prendre les feuilles de manioc, par exemple ?
Justement, j'ai vu quelqu'un faire de la farine avec des feuilles de manioc.
Moringa aussi.
Mais comme Jennifer expliquait, peut-être que le process n'est pas le même. Hein.
Moringa aussi, est-ce qu'on peut faire de la farine de moringa ? Ça existe, tout ça ?
Alors, justement, c'est bizarre, on l'appelle plutôt la poudre de moringa,
l'a. Plutôt poudre
exactement.
Et farine,
Et ça, ce sont des farines que vous aimez utiliser.
Exactement.
Et est-ce qu'elles
sont... Donc, il y a la patate douce, hein. Je peux citer plein de farines.
Ouais, mais allez-y, parce que nous, on est là
La farine de banane
de banane verte
aussi.
Alors, la banane
plantain,
on la trouve en magasin bio. Verte, la banane fruit verte, la banane plantain mûre. Alors là, j'ai la farine de teff, ça c'est plutôt très éthiopien,
que j'adore,
c'est très connoté.
Mais qu'on ne trouve pas facilement en France. Hein.
Ouais, pas facile.
Qu'on ne trouve pas facilement, ça c'est sûr. La farine de fonio. On utilise aussi beaucoup de farine de riz. Hein. Il n'y a pas que le riz importé. On a beaucoup de riz. Il y a du riz, par exemple, au Sénégal. Il y a le riz dans le nord du Cameroun. Il y a du riz au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment des riz locaux. Il y a la farine de maïs. On a le maïs rouge, le maïs jaune, le maïs blanc. On a la farine de, disons, de millet. Il y a la farine de sorgho aussi.
Aussi, bien sûr. Mais est-ce que ce sont des farines que vous privilégiez pour faire des gâteaux, des types de gâteaux en particulier, ou bien des pains ? Et comment est-ce que vous faites pour les panifier ? Parce qu'elles ne doivent pas toutes être panifiables, ces farines, Nathalie.
Alors, honnêtement, je me demande laquelle est vraiment panifiable, en dehors de la farine de blé. La farine de blé, il n'y a pas de discussion à avoir, mais pour le reste des farines, ce n'est pas très simple. C'est vrai que de temps en temps, je peux rajouter de la farine de pois chiche. Jennifer disait tout à l'heure que ça donnait un peu la consistance d'œuf, donc pour aérer un peu les pains. Mais ce n'est pas très simple. Hein. Donc, je pense que dès le départ, il faut déjà se dire qu'on ne peut pas faire exactement le même pain qu'avec la farine de blé.
Non, ouais. Moi, je trouve qu'il faut partir sur autre chose, en fait. C'est
voilà.
Vraiment, c'est un autre produit, c'est une autre expérience. Et c'est vrai que, moi, tout le cursus naturopathique, où j'ai vu qu'on essayait beaucoup de remplacer. Et en fait, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir remplacer. Il faut juste faire autre chose, quoi.
Faire autre chose.
Voilà.
Mais on veut pas forcément un pain, d'ailleurs. On veut peut-être une bouillie qui sera meilleure en termes de saveur et en termes de tout. D'ailleurs, je crois que la bouillie est assez répandue. Ou même les foufous. Nathalie.
Alors, les foufous, c'est à la fois le féculent qu'on va cuire et écraser, comme la patate douce, le manioc, l'igname. Je ne parle pas de farine d'igname, il y a ça aussi. Mm-hmm. Et c'est aussi la farine de ces féculents-là qu'on va tourner en boule avec de l'eau chaude. Ça s'appelle le tau dans certains pays comme le Burkina Faso ou le Togo. Et le foufou au Cameroun, au Nigeria, un peu dans les pays anglophones. Donc le Libéria, la Sierra Leone l'appelle le foufou.
Mais ça, c'est un usage complètement quotidien de la farine.
Ah oui. la farine et le produit brut. Donc il y a aussi des farines que j'ai reçues dernièrement, des farines de melon, la farine de matabo, la farine de taro. En fait, tout à l'heure, Denis Fay disait que peut-être que tout pourrait devenir farine.
Absolument.
La farine, farine d'insectes, voilà. Apparemment.
Oui, farine d'insectes également, tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites la farine de courge, qu'on appelle également pistache pour ce qui est des graines de courge.
Oui. Hein,
on appelle ça des pistaches. Est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, une farine des graines de courge?
Alors, je pense que je donnerais la même réponse que Jennifer qui parlait des amandes.
Oui, voilà. Parce que ça, je le vois comme chose de gras. Ouais.
Voilà, que les amandes écrasées.
D'accord. Et c'est pas bon, ça?
Mais si, mais c'est, du coup, c'est une autre façon de faire des, c'est comme, par exemple, je sais pas si t'es d'accord, Nathalie, mais c'est souvent, je dis aux gens, voilà, un gâteau, c'est quoi? C'est, des matières sèches et des matières liquides. Et donc, quand on réfléchit à chaque produit, par exemple, c'est vrai que la poudre d'amande ou on parlait du souchet ou peut-être la farine de graines de courge, ça va amener le gras. Donc en fait, après, une fois qu'on a compris la logique, on joue avec tout ça, en fait. On va chercher un peu
et on en fait des huiles aussi.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Les graines de courge, on en fait des huiles. Disons que on peut avoir des bases, en tout cas pour ce qui me concerne, des bases pour la pâtisserie, le manioc, la patate douce, l'igname, le riz, puisqu'on en fait aussi. Et je ne sais pas si vous connaissez Papy Exotique.
Non, je ne connais pas, moi, Fatou.
Elle fait de très, très belles pâtisseries avec que des farines comme ça sans gluten.
Génial.
Et la base, c'est souvent le manioc. Elle remplace franchement la farine de blé pour ce qui est des pâtisseries. Et
ah,
même
super.
La farine de patate douce.
Ouais.
Le plus difficile, c'est le pain. C'est la panification.
Ou les brioches. Moi, à mon échelle, c'est les brioches.
C'est ça,
et je dis souvent aux gens, on peut remplacer le beurre, les œufs, mais par contre, on peut pas... Enfin, une brioche sans gluten, c'est presque antinomique pour moi, quoi. Ça veut rien dire, en fait.
Ouais, en fait, il faut chercher autre chose. Il faut pas chercher à tout prix...
Dans ce cas, ça s'appelle plus brioche. Ça s'appelle un petit pain au psyllium. Je sais pas, il y a d'autres façons de nommer les choses, quoi.
Bien sûr, psyllium, vous venez de lancer un nom, là. Psyllium, de quoi parle-t-on quand on parle de psyllium, Jennifer Hart-Smith?
Mais c'est le tégument, c'est la partie fibreuse, mais qui va gonfler au contact de l'eau. C'est ce qu'on appelle c'est plutôt les mucilages. Donc c'est des fibres douces, insolubles dans l'eau. Et donc elles vont avoir la caractéristique de prendre un peu la texture d'un gel, notamment. C'est un peu le cas des graines, enfin c'est même le cas des graines de chia, des graines de lin.
Oui, on les laisse dans l'eau, on voit tout de suite une espèce de gel. Pellicule et de gel qui se forme.
On en a dans certaines plantes des mucilages aussi, et ça va amener vraiment le côté aussi liant, élastique, et ça va amener aussi l'humidité. Donc c'est vrai que par exemple le psyllium, on l'utilise beaucoup pour remplacer l'élasticité du gluten. Et moi je fais des petits pains comme ça, donc farine de riz, farine de sarrasin ou les deux, un mélange de graines, du psyllium, de l'eau, pouf pouf pouf, des petites boules et au four, et c'est réglé. Donc voilà, c'est vrai que et c'est autre chose, quoi.
Complètement, je rigole parce que c'est vraiment ludique quand
c'est
on
ça,
vous écoute,
ouais,
on a qu'une envie, c'est de justement prendre une farine et essayer de mélanger, voir ce que ça donne, voir ce que ça va produire. En tout cas, je voudrais qu'on voyage encore à nouveau, parce que la farine, figurez-vous qu'il en est question également en Chine. Et là, vous me dites, mais bien sûr, farine de riz. Eh bien non, pas forcément, figurez-vous. Mmh. On la retrouve, cette farine, dans les raviolis, les beignets vapeur, les nouilles, et même dans les crêpes, figurez-vous. Et oui, les crêpes chinoises, dont nous parle notre correspondant permanent, Stéphane Lagarde.
La farine, ici, dans le nord de la Chine, ça commence dès le matin, au petit déjeuner, un peu comme vous. Hein. Je suis maintenant dans ma rue, la rue du bonheur, Qingfulu, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ça ne s'invente pas, et sur un des trottoirs, pas loin d'un centre commercial, il y a une petite cuisine ambulante, là, près des vélos, près d'une forêt de vélos en libre accès. Il en reste beaucoup, des cuisines comme ça à Pékin, ça ressemble un peu à nos camions de pizza en plus petit, sauf qu'on y fait des crêpes, les célèbres Jian Bing Guozi. Et là, vous entendez chanter la farine, justement, on l'entend frétiller, puisqu'elle est cuite sur des plaques de cuisson dans l'huile, avec un œuf, des oignons verts hachés, on peut aussi mettre de la coriandre, et après on ajoute un peu ce qu'on veut, hein. Sauce pimentée, salée, de la sauce soja par exemple, et la crêpe à base de farine de blé s'enroule autour des ingrédients comme un pain frit, et on la mange comme les Pékinois, debout, parfois en marchant, sur le chemin entre le métro et le travail. Alors là, autre ambiance, vous entendez cette fois le vendeur ambulant de baozi qui passe aussi dans ma rue. Alors c'est beaucoup plus rare, mais je l'ai entendu hein, comme ça deux, trois fois, ce vendeur de baozi. Vous connaissez les baozi, ce sont des beignets vapeur avec dedans le plus souvent une farce à base de viande et des petits légumes. Mais on a aussi des baozi sucrés à la purée de haricots rouges par exemple. Et pour la pâte, eh bien là aussi, il s'agit de farine de blé. à laquelle on ajoute du lait, parfois du lait de soja. Et les baozi sont très populaires en Chine, et notamment dans le nord de la Chine, où l'on produit justement cette farine à base de tous ces encas, alors que dans le sud, eh bien, on est plutôt sur des plats avec du riz. Allez, je vous laisse écouter le chant du mégaphone. J'ai enregistré cette ambiance devant un restaurant, cette fois, et je vous laisse deviner lequel, d'ailleurs. Un restaurant de quoi ? Un restaurant de Beijing Kaoya, oui, le célèbre canard laqué à Pékin. Quel rapport avec la farine, me direz-vous ? Eh bien, les crêpes, là encore. Des crêpes très fines, presque transparentes, qui font la taille de la paume de la main, voire un peu moins, et dans lesquelles on enroule le canard et les différents ingrédients que nous présente le chef Wang Shudong, qui prépare des canards à ses clients depuis 20 ans maintenant.
Le canard laqué de Pékin est réputé pour sa peau croustillante et sa chair tendre. Une fois sorti du four, on peut tremper la peau dans du sucre blanc. On peut aussi l'accompagner d'ail écrasé. Sinon, le plus souvent, on mange le canard avec une sauce de soja fermentée et des petites crêpes très fines qu'on enroule autour de la viande avec des filets d'oignons verts et des concombres coupés très fins également.
Voilà, je laisse Monsieur Huang près de son four et ses canards sur broche. On va un peu plus loin dans la rue, cette fois dans un restaurant de jiaozi. Là aussi, on est dans la farine, de la pâte fine pour les raviolis qui sont dégustés pendant les fêtes du Nouvel An lunaire qui viennent de se terminer. Mais pas seulement, nous avons rencontré Madame Shin, que j'ai baptisée la reine des raviolis parce qu'ils sont excellents chez elle.
Les raviolis sont appréciés partout en Chine, mais c'est surtout une spécialité du Nord et notamment de Pékin. On les déguste en famille, pendant les vacances de la fête du printemps et tout le reste de l'année. Les raviolis sont préparés à la main. La farine est très importante. On utilise ici des farines venues de la région du Nord-Est. On mélange avec de l'eau et on obtient une pâte fine dans laquelle on met du porc, du chou, des œufs, des crevettes, comme on veut.
La farine en Chine et en particulier dans le nord de la Chine, j'aurais pu évidemment vous parler des nouilles, mais ce sera pour une prochaine fois. Saïtienne, à bientôt.
Saïtienne, Stéphane Lagarde, bien sûr qu'on a prévu une émission rien que sur des nouilles. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression, justement, ce voyage ? On est complètement parti-sorti, là.
Mais j'étais en train de saliver, là. J'avais vraiment faim. Tout ce qu'il me décrivait me donnait envie. Et vraiment, c'est chouette. En plus, moi, je pense qu'on a vraiment, en France, beaucoup à y gagner en puisant aussi à la fois des techniques de cuisson et des façons d'utiliser la farine différemment, justement. Tout ce qui est un peu la culture aussi asiatique a beaucoup à apporter aussi à, par exemple, aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un registre de la viennoiserie qui pourrait être revisité aussi en France. À ce niveau-là, ce serait super, ouais.
Complètement.
La vapeur, comme vous avez pu faire une émission, mais voilà, aussi tout ce qu'il décrivait, j'imaginais déjà des roulés, là, pas des brioches, mais voilà, des espèces de crêpes roulées dans lesquelles on aurait mettre des tartinades en tout genre, et ouais, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ouais. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust, and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of beacon, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pace, pine to pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell? How can you spoil them? How can you trade? How can you grow? Seeds of devastated corn, seeds of strain. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of storm. Seeds of underneath the summer lies and men, seeds of cold. How can you buy?
Seeds de Camille sur RFI. Vous écoutez le Goût du Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Jennifer Hart Smith, naturopathe et pâtissière, et Nathalie Brigon-Goum, auteure et cuisinière. Nous sommes le nez non pas dans la farine, mais dans ses produits. Hein. Nathalie Brégon-Goum.
Je voudrais juste revenir sur le psyllium et les graines de chia, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Moi, j'essaye, en fait, d'en mettre le moins possible parce que les gens me suivent beaucoup dans les pays africains et n'ont pas toujours ces produits-là.
Bien sûr.
Donc, peut-être que Jennifer va me donner des tuyaux. Je voudrais me mettre au levain. Parce que là, aujourd'hui, je fais vraiment beaucoup de mélange de farine, des essais. Mais vraiment, pour que ce soit simple, à la limite, juste la levure. Parce que la levure boulangère, qu'elle soit fraîche ou sèche, on la trouve là-bas. Donc, je voudrais vraiment essayer des choses qu'on peut trouver facilement aussi dans les pays africains.
Je comprends. Très, très bien. C'est alors, très justement, question, recette minutes. Je pense que c'est possible.
Alors, pour Jennifer, le levain ou pour le...
Faire un levain maison.
Bah, le levain, ce qui est important, c'est il faut toujours choisir une farine de base qui soit complète. Parce qu'en fait, ce qui va permettre la fermentation, si on part d'une farine blanche, ça ne marchera pas. Tout le microcosme, toutes les bactéries qui sont vivantes, toute la partie fibreuse, en fait, c'est pour ça que qu'on prend le plus complet possible. Donc c'est valable pour toutes les céréales, le riz aussi. Et on peut faire, par exemple, des levains de sarrasin, des levains de quinoa.
La farine de mil.
Oui, aussi.
Franchement, soit la farine de mil.
Mais complète.
Soit des petites, voilà. La
sorgho
farine de
aussi.
Mil,
donc on
et
peut.
La farine de fonio maintenant de plus en plus.
Il faut partir d'une farine qui est non raffinée, quoi D'accord. qu'il arrive.
Donc on peut tenter un levain de
Exactement.
Mil.
Exactement. Et ce qu'on peut faire aussi, que je te conseille, c'est par exemple prendre du millet ou du sorgho ou une céréale, de partir à base d'une céréale, de la mixer. Vraiment, soi-même, avec un blender, de rajouter de l'eau. Et là, on a une fermentation aussi. C'est-à-dire que là, on a la main et on a la maîtrise sur la céréale de base qu'on a transformée nous-mêmes en farine et à partir de là, qu'on a fait fermenter nous-mêmes aussi pour faire un levain. Ça, c'est possible aussi.
D'accord. Mais le principe de base, si je vous comprends bien,
c'est
donc
de la farine et
de l'eau.
Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une consistance pâte à crêpes. Pâte à pancake plutôt, peut-être un peu plus épaisse.
On nourrit son levain
Exactement.
En ajoutant de l'eau. C'est un processus qui n'est pas
c'est
une journée.
C'est un processus
hein,
qui est, alors qui peut aller très vite quand on est, bah, justement, Nathalie, s'il fait assez chaud où tu es, ça peut aller très vite. Ça peut prendre 24 heures, vraiment facilement, et qu'il y ait une vraie vie, mais ça peut prendre plutôt 48 heures. Et par exemple, là, moi, je sais que les premiers levains que j'avais lancés l'année dernière, pendant le confinement, j'avais suivi les recettes de Marie-Laure Fréchet qui a sorti un très beau livre sur le pain en première intention et après sur la viennoiserie maison. Ça prenait plusieurs jours parce que la température chez nous était plus, c'était plus un climat tempéré, donc ça mettait plus de temps. Trouver un endroit où il y a
une source de chaleur,
une
mais
source
constante.
De chaleur constante, pas trop chaud, pas de source de lumière qui peut tuer aussi les bactéries. Mais en fait, c'est de la bricole et ce qui est assez intéressant, c'est que ça prend vite. Et à partir de là, bon, on le nourrit, quoi. Donc, on le nourrit régulièrement. Et plus on le nourrit et plus il devient fort. Et il y a des levains. Moi, hier, je croisais une amie, Shira, là, qui a des levains qui ont 5 ans, 6 ans. Et donc, ils sont en pleine forme. Et elle les nourrit peut-être parfois une fois par semaine, parfois une fois tous les 2-3 jours, selon son activité de panification.
D'accord.
Ah, et l'eau. Dernière chose, l'eau. Important de ne pas prendre d'une eau chlorée qui va justement tuer aussi les bactéries. Donc on prend une eau déchlorée, une eau qu'on a fait bouillir au préalable ou une eau minérale, une eau de source.
Qu'on a laissée peut-être à l'air libre.
À température ambiante.
À température ambiante, ça marche aussi.
C'est ça.
Mon levain est vivant quand je vois quoi ?
Des bulles, une activité. Plus il est heureux, plus il bulle, plus ça augmente, ça double de volume. Mais ce qui est génial, c'est qu'au début, ça semble compliqué. Et puis, une fois que ça se débloque, on est parti, quoi.
On est parti.
Ouais, on est parti.
Okay. Vous savez, c'est tout simple. N'importe quelle ménagère, même non avertie, peut le faire. Elle prend une casserole d'eau. Elle met la quantité d'eau qu'elle veut, selon si c'est pour deux personnes, si c'est pour une famille nombreuse. Elle laisse bouillir cette eau. Ensuite, elle met la quantité de farine. Alors, tout en même temps, elle commence à tourner cette farine jusqu'à ce qu'elle soit bien humectée, bien délayée, mais que ce soit dur, vous voyez. On la laisse cuire un petit peu. On la retire du feu. Et alors, dans le temps, nos anciens, avec une petite palette en bois de la largeur de 4 doigts, ils arrondissaient bien, décollaient cette farine de la casserole. On la décolle comme il faut, on l'arrondit un petit peu. Vous la remettez sur le feu. Et puis, une minute ou deux, alors la poulaine, comment dirais-je, elle plouffe. Elle éclate en surface. Alors, à ce moment-là, vous la retirez. Vous mettez, dans le temps, nous avions un taouledo. On y mettait un petit peu de farine de châtaigne. Et vous renversez votre casserole, votre ustensile dessus. Et alors, naturellement, le meilleur goût, c'est avec du broch frais. Et entre autres, du brooch de chèvre.
Et ben voilà, le brooch de chèvre avec laquelle on déguste cette délicieuse pulenta qui fait donc plouf. Un plouf bien identifié parce que ça donne même le nom de certains plats dans plusieurs régions de France. Plouf qui est donc l'effet de la bulle qui éclate. Nathalie Brégon-Goum, est-ce que cette évocation justement de ce qu'on peut faire, donc farine de châtaigne en l'occurrence, de ce qu'on peut faire comme galette, comme autre composition avec ce type de farine?
Oui, déjà ça me donne l'occasion de rendre un hommage à la cuisine de rue dans les pays africains, parce qu'il y a beaucoup de beignets, de bouillies, de galettes, de biscuits, vraiment toutes sortes de choses faites soit à base de farine de blé, mais soit à base d'autres farines aussi comme le riz, le mil, le sorgho, et puis les farines à base de féculents.
En tout cas, ce qui est formidable depuis le début de cette émission, enfin, je ne sais pas si, j'espère que vous, derrière votre poste, c'est ce que vous ressentez aussi, c'est cette impression qu'il n'y a jamais d'histoire de fin, en fait, quand on a une farine. Elle, il y a l'aspect vivant au début et ensuite, on va la griller, la torréfier, l'humecter, fabriquer un levain, la fermenter. Tout ça, c'est un travail qui vous intéresse particulièrement, Jennifer?
Oui, bien sûr. Et puis, vraiment, il y a le fait qu'on puisse en faire des crêpes. Enfin, c'est-à-dire, toute la forme que peuvent prendre effectivement les farines pour amener la partie des céréales au sens large dans une assiette. Donc là, d'un point de vue naturopathique, c'est vraiment intéressant de se dire que... Et moi, c'est ce que je dis souvent, parce que ça m'arrive d'accompagner aussi des gens dans la santé quand même. Et quand ils me disent « Mais oh, j'enlève le pain, mais qu'est-ce qui me reste ?» Eh ben, il reste un champ des possibles infini, en fait. Il suffit juste d'aller vers d'autres farines et d'intégrer plus une façon... Bah, justement, comme disait Nathalie, les crêpes qui vont venir servir pour, par exemple, avec les dips, un petit hummus ou des choses comme ça, ou des pestos. Enfin, je veux dire, crêpes, bouillies...
Oui, galettes.
Et voilà. Et c'est vrai que dans toutes les cultures où il n'y a pas forcément une culture de panification de pain comme nous on peut avoir en France, c'est la céréale, les farines sont traitées autrement, ça accompagne aussi les repas et c'est magique. Donc forcément, ça ouvre le champ des possibles et c'est pour ça que je disais qu'en boulangerie, en pâtisserie, en France, on a tout à gagner à élargir ce champ des possibles là aussi.
Mais dans tous les pays du monde d'ailleurs.
Bien sûr.
On enseigne et on partage. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette technique nigériane?
Oui, que j'ai découvert et qui m'a ouvert justement un champ des possibles incroyable. Donc j'avais découvert ça sous plusieurs formes, mais c'est vrai que c'est le livre de Camille Auger sur la fermentation, l'art de la fermentation, qui m'a remise un peu dedans. Et donc ça s'appelle le cinnasir. Et en fait, l'idée, c'est de prendre une base de riz complet, donc toujours pour amener la fermentation spontanée en l'occurrence. On cuit une partie et on garde une partie crue. Et ensuite, on va rassembler la partie crue et la partie cuite du riz complet. On va mélanger ça avec de l'eau. Donc, on va passer dans le blender. On va arriver à une texture pâte à crêpe, pâte à pancake. Et on va lancer une fermentation spontanée, comme j'expliquais, dans un climat un petit peu humide ou chaud, où on peut céder du four ou d'un cuve-vapeur. Ou alors, on peut rajouter un peu de levure boulangère si on n'a pas le temps de le faire, ou un petit peu de levain. Et on arrive donc à une crêpe fermentée de riz qu'on va cuire comme une crêpe, un peu plus longtemps qu'une crêpe classique. Ça va être plutôt 2 minutes par face. Et ça colle un petit peu, mais c'est chouette à faire. Et on va l'utiliser comme base. Ben, on peut rouler, justement, on l'utilise comme un burrito, ou utiliser dedans une crème de légumes, ou alors un dips, rajouter des légumes crus, des légumes cuits. Enfin, c'est assez chouette à faire. Et on peut le faire avec le quinoa, on peut le faire avec le sorgho, on peut le faire avec plein de céréales différentes.
Est-ce que vous pensez que si on laissait cette pâte lever vraiment, complètement, on pourrait en faire un pain? Comme le faisaient les Égyptiens à l'origine, ils avaient une sorte de pâte liquide, un pain liquide.
Ce qui va nous manquer là, en l'occurrence, ça va être l'élasticité. C'est-à-dire, le gluten, c'est le côté élastique, mais c'est aussi ce qui va permettre aux pâtes de lever, c'est-à-dire encapsuler l'oxygène pour faire gonfler la pâte. Et ensuite arriver à vraiment le côté un petit peu alvéolé. Là, si on cuit ça, c'est vrai que la farine de riz ou la farine de sarrasin, c'est possible, mais il y a une densité telle qu'il y aura, elle sera beaucoup plus compacte quand même. Voilà. Donc c'est vrai que on va rajouter. C'est là où moi j'utilise justement un peu plus de téguments de graines comme le psyllium ou certaines fécules pour amener cette élasticité, pour garder le côté alvéolé. Ouais.
Oh là là. C'est déjà terminé.
On n'a plus le temps pour la
date. Oui, on n'a même pas parlé de la farine de niébé, là. Et puis la fermentation, c'est une technique qu'on utilise depuis très, très, très longtemps avec les féculents. Parce que là, vous avez parlé du Nigeria, mais c'est la même chose au Tchad ou au Cameroun.
Génial.
Voilà. Ouais. C'est vraiment ça. Et tout ce qu'on fait, ce qu'on appelle les chikwang, les transformations du manioc, tout est fermenté.
Wow, ouais.
Nathalie Brigandoum, vous vouliez parler bien sûr du niébé ou haricot cornille.
Oui.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui. On transforme ce haricot à l'œil noir, là, en farine. Et je sais qu'il y a une jeune Camerounaise qui est en train de monter une usine au Cameroun pour en faire des pâtes alimentaires sans gluten.
D'accord. À l'image des lentilles, à l'image de tout, enfin, toute pâte faite à partir de légumineuses. Mmh. Du coup, c'est possible. D'accord.
Et le souchet, bon, on n'a pas discuté, mais ça aussi, le fognon, ça, c'est top. Hein.
Oui.
Haricot de noisette.
Et d'ailleurs, ces petits beignets, là, les coquilles qu'on mange au Cameroun, ils sont quand même complètement emblématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot également?
Alors, le coquille, c'est à la fois le haricot et, en fait, une forme de pâte au haricot écrasée avec du piment, un peu d'huile de palme qu'on met dans une feuille de bananier. Ça, c'est le coquille. Et après, tout ce qui est variante de ce haricot-là s'appelle aussi le coquille, comme les beignets de coquille. Mais ça se trouve dans d'autres pays, on l'appelle akara dans des pays d'Afrique de l'Ouest.
D'accord, c'est très répandu.
Oui, c'est très répandu.
D'accord.
Le quoi, œil noir, là, c'est très répandu. Black Eyed Peas.
Black Eyed Peas.
C'est très répandu.
Petite question pratique pour terminer cette émission, Jennifer Hartsmith. Que fais-je de ma farine? Comment je la conserve?
Alors moi, j'ai acheté des bocaux en verre. Plus elles sont fraîches, mieux c'est. Je les conserve jamais plus d'un an, moi, les farines. Déjà, ça va vite. Il y a une vraie rotation. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai cette fameuse farine au thé, je l'ai vraiment constituée. Et dans les bocaux en verre, l'idéal, c'est qu'elles prennent pas trop l'humidité, en tout cas.
D'accord. Est-ce que vous conseilleriez de les mettre au frigidaire?
Moi, je le fais pas, mais je sais que certaines personnes le font, notamment pour la présence des mites alimentaires aussi, ça peut être le cas. Mais je ne le fais pas. Peut-être Nathalie le fait, je sais pas.
Je sais pas, Nathalie,
pas
vous conservez comment vos farines?
Ouais, voilà, moi je.
Alors, soit dans des bocaux en verre, soit, je dois peut-être pas faire ça, dans leur emballage d'origine.
Ouais, c'est très bien aussi. Ouais.
Dans leur emballage d'origine. Après, il faut bien les fermer, bien les protéger pour qu'il n'y ait pas de mites ou d'autres insectes.
Bon, bah merci beaucoup à toutes les deux. En tout cas, hein, le goût du monde se referme déjà. Merci Jennifer Hartsmith, Nathalie Brigandoum pour ce voyage. Jennifer, Pâtisserie naturelle est éditée chez Marabout. On est d'accord. Wild Therapy, c'est en auto-édition avec Anne-Sophie Nardi. Ou alors là, on mélange et la pâtissier pour la gourmandise et l'aspect crème vivant pour en général pour tout ce qui est autre, n'est-ce
tout
pas? Avec plein de recettes. Votre imprécis de cuisine a remporté, donc je l'ai dit tout à l'heure, le prix l'innovation aux Gourmand Awards et à la Foire de Paris a été primé également. Nathalie Brigandoum, il est disponible sur votre blog. On peut le trouver?
On peut le trouver, il est en rupture de stock, on peut le trouver dans 10 jours à peu près.
D'accord, voilà une bonne nouvelle. Et vous, quelle farine, quel pain, quel écho à cet ingrédient fondamental dans votre vie et votre cuisine? Racontez-nous sur Instagram, Facebook ou sur WhatsApp, 33 6 43 63 13 98. Merci beaucoup à Cécile Bonici pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde. Merci à vous de votre fidélité et à Sophie qui a cuisiné des petits pains fourrés, des bao, la semaine dernière après avoir écouté notre voyage dans les cuisines d'Asie. On aime même, on adore quand vous nous partagez un petit peu vos recettes et vos photos. Ça, je dois dire que c'est un vrai plaisir pour nous. Donc, on vous souhaite une excellente semaine à tous. À samedi prochain. Mijotez rien que pour vous. Cette émission était une rediffusion.